Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tounda et Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Difior, et prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Elisabeth Franck-Dumas. Notre affiche, l'exposition Irving Penn au Grand Palais, la carte blanche PMU d'Elina Broterus au Centre Pompidou et l'exposition Giorgio Morandi à la galerie Karsten Greve. Présente également ce soir Aïssa Tounda qui surveille le fil Twitter Dispute FC, sur lequel vous pouvez bien sûr donner à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Stupid Things d'Aman Abbasi qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute avec l'exposition que le Grand Palais consacre au photographe américain Irving Penn, dont on célèbre cette année le centenaire de naissance. Il est mort en 2009, il avait 92 ans, et comme il a débuté en 1938 à New York, il a donc exercé son art près de 70 ans. Pourtant, c'est un des grands points positifs pour moi de cette rétrospective, il n'y a pas trop de photos au Grand Palais, on y reviendra. Il y a quand même bien assez pour montrer la grande place qu'occupe Irving Penn dans ce 20e siècle en 253 images tirées par le photographe lui-même. On sait aussi qu'il y portait grand soin, nous en reparlerons. L'exposition qui avait été présentée au MoMA à New York l'été dernier et qui est visible à Paris jusqu'au 29 janvier. Les commissaires en sont Maria Maurice Ambo, Jeff Rosenheim et Jérôme Neutre. Alors Corinne Rondeau, vous souhaitez qu'on interrompe la musique d'Igor Stravinsky pour consacrer plus de temps, bien sûr, à cette exposition qui était montrée au Metropolitan Museum de New York. J'ai déjà dit une bêtise à 19h06, c'est bien noté, non pas au MoMA. Elisabeth Franck-Dumas,
oui.
Pour la peine.
Oui, pour la peine, c'est-à-dire.
Pour Irving.
pardon, je suis un peu lente ce soir, ça n'augure rien.
Moi, je suis venu comme ça.
Je vais dire, ça vaut la peine alors.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Écoutez, oui, c'est une très belle expo, élégante, sobre, voilà, qui ressemble au photographe et à son travail. Une expo faite avec beaucoup de moyens. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'elle donne en partenariat avec donc le Metropolitan. Voilà, tout est fait pour le mettre en majesté, cet accrochage linéaire et sobre, ces tons gris, ce qui se marie très bien avec cette sorte de perfection formelle à laquelle il aspirait dans ses photos, lui qui s'inspirait ouvertement, enfin il le revendiquait, des grands maîtres de la peinture ancienne, prise quasi intégralement en studio, c'est-à-dire quand même un petit peu coupé du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, ou en tout cas, si on ne connaît pas toutes les photos, on reconnaît sa patte pour les photos de mode, pour les natures mortes. Bon, moi, j'ai un regret, contrairement à vous. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de photos, mais je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de natures mortes culinaires, qui est un travail que je connaissais bien, que j'aime beaucoup et que je trouvais plein d'humour, parce que sinon... On rigole pas toujours. mais voilà, donc j'ai regretté que ça soit pas là. En revanche, beaucoup de découvertes, ça c'est formidable, notamment des photos prises lorsqu'il a été envoyé en reportage à Cusco, une série sur les mégots aussi que je ne connaissais pas.
C'est celle que j'ai préférée.
Voilà, qui est formidable.
Les mégots de cigarettes.
Mégots de cigarettes ramassés dans les rues de New York, en gros plan, crade et beau. Alors qu'est-ce qu'on voit sur toutes ces photos? On le reconnaît évidemment, mais qu'est-ce qu'on apprend sur Irving Penn? Alors, je trouve qu'il y a des portraits formidables. Il y en a qui sont déjà très connus, qui ont été réutilisés, Saint-Laurent, Balthus, Picasso. Il réussit à capter quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, Balthus, un petit côté un petit peu voyou et mauvais garçon, comme ça, de Balthus jeune. Mais généralement, ce que je trouve frappant, c'est déjà qu'il s'intéresse finalement moins au visage, même s'ils sont très réussis dans les portraits qui sont là, qu'au corps, qui façonnent comme des silhouettes. On a l'impression, surtout dans les photos de mode, qu'ils peuvent faire ressembler toutes ces femmes ou toutes ces robes à des fleurs, à des iris, à des orchidées. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est le plissé, le tombé d'un vêtement sur une épaule. Même lorsqu'il va à Cusco, on voit qu'en fait, finalement, ce sont les robes qui l'intéressent beaucoup plus. Donc ça, je trouve ça très amusant. Évidemment, toutes ces photos sont faites pour Vogue, c'est-à-dire que ce sont des photos qui ont quand même, enfin, ou presque toutes ces photos ont été faites pour Vogue, c'est-à-dire que ce sont quand même des photos qui sont là pour nous vendre quelque chose, ou qui ont été conçues pour vendre quelque chose, qui ont été conçues pour vendre de la mode, quelque chose d'un petit peu aujourd'hui, on dirait, aspirationnel, qui ont été conçues pour nous vendre des personnalités aussi, c'est-à-dire que, oui, il y a des... c'est vrai que dans ces portraits, par exemple, le portrait de Colette ou d'Anaïs Nin, très ridé, très, très proche, comme ça. Alors, on n'est plus dans cette sorte de perfection, mais c'est normal parce qu'on nous vend un écrivain. Ou alors, même les métiers, je trouve. Et c'est évidemment, je trouve que le travail de Penn est très impressionnant, mais on ne peut pas se dégager de cette impression-là. Ça évoque quand même aussi ces années 50, la puissance des États-Unis qui se manifestait dans la politique éditoriale de magazines qui l'embauchaient. Et je trouve ça très intéressant aussi de voir comment son travail a pu aider à vendre une vision du monde qui était la vision du monde d'un magazine comme le Vogue américain.
Voilà, après cette introduction signée Elisabeth Franck Dumas, Yasmine Youssi.
J'ai l'impression qu'on n'a pas vu la même exposition.
Ah, bah, très bien. Alors, vous étiez bien au Grand Palais, Yasmine.
Ah ben, bah, Corinne peut en témoigner.
Très bien. Bon, vous en témoignez, Corinne ?
Je témoigne.
Bon, Corinne Rondeau confirme. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ?
Mais écoutez, j'ai pas vu ça du tout. Pour moi, d'abord, j'ai trouvé que c'était une exposition exceptionnelle parce qu'elle permettait d'approcher au plus près et l'homme et son travail à travers ces murs gris, comme vous disiez, cet accrochage, c'est très racé, très élégant, c'est ce qu'il faisait. J'ai trouvé extrêmement intelligent parce que Irving Penn, ces derniers temps, la mode depuis quelques années pour vraiment prouver que c'est un grand art annexe absolument tous les photographes pour en faire de grands photographes de mode. Et Irving Penn, c'est d'abord un grand photographe avant d'être un photographe de mode. La mode, pour lui, le fait vivre et lui permet de mener de faire son travail en parallèle, mais c'est absolument pas ce qui l'intéresse le plus, et ça on le voit très bien. D'ailleurs la mode là est évacuée en une salle, en fait,
en une salle et
dans les salles thématiques, parce que la plupart c'est des salles chronothématiques, elle est évacuée en une salle, et dans cette salle là on vous montre surtout à travers les photos de mode son goût pour le tirage et comment il va transformer une seule et même photo en 5 images différentes, enfin un seul négatif en 5 tirages différents et le velouté qu'il va donner.
C'est très, très beau,
c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
En fait.
Mais en fait, lui, il a commencé effectivement chez Vogue par faire ces natures mortes culinaires, comme dit Elisabeth, qui sont très drôles, parce qu'elles suivent un sens. Chaque élément se touche, il compose vraiment la vinaigrette, vous verrez, c'est vraiment, il suffit de suivre l'ordre pour réussir sa vinaigrette. Donc il fait ça, et puis Alexandre Liberman, qui est quand même l'un des plus grands directeurs artistiques du XXe siècle, qui vient de Berlin, ayant été vraiment un foyer pour la presse et pour les explorations graphiques dans les magazines, Alexandre Liberman se dit, mais mon Dieu, c'est un génie qu'on a, donc on va essayer de lui faire faire de la mode. Et c'est comme ça qu'il se met à faire de la photo de mode. Alors, effectivement, il vend un vêtement, la photo de mode c'est fait pour ça, hein. C'est pour mettre en valeur un vêtement, même si aujourd'hui on s'en rend plus vraiment compte, mais là, il remplit son rôle. Et à chaque fois, alors, il le met là-dessus, puis il le met, par exemple, il l'envoie à Cusco pour faire une série de modes. Il va pas à Cusco pour aller faire des portraits d'Indiens, il va à Cusco pour faire une série de modes, et on voit la photo de mode qu'il réalise à Cusco. Et là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ben, il fait ce qu'il va faire à chaque fois, et avec l'assentiment de Lieberman, qui se dit, ce qui est bon pour Penn, c'est aussi bon pour moi. Je vais le laisser faire son travail en parallèle, et je le récupérerai, je le passerai aussi dans Vogue. À l'époque, Vogue était un immense magazine avec des reportages photographiques absolument exceptionnels. Donc là, il va... Et c'est comme ça qu'il travaille à chaque fois. Il va à Cusco, il loue cet atelier, il découvre ce que c'est que la lumière latérale, la lumière du Nord, qui va après chercher tout le temps. Vogue publiera d'ailleurs les photos qu'il fera des Indiens qui viennent se faire tirer le portrait pour Noël... et qui se retrouve finalement à partir avec de l'argent parce que Penn leur dit non, venez poser pour moi, je vais vous donner de l'argent. Donc il crée quelque chose là. Pareil à Paris, il vient à Paris pour faire de la photo de mode. C'est Edmond Charleroux qui s'occupe de lui et il lui dit mais je veux faire aussi des portraits. Il a l'idée de faire les portraits de petits métiers, l'idée qu'il ramène de Cusco. Et en parallèle des photos de mode, il va faire toute cette série sur les petits métiers qui déclinera ensuite à Londres, qui déclinera ensuite à New York.
Faisant à chaque fois venir voilà, studio.
Et vous savez qui était le rabatteur ? C'était Robert Doisneau. Et par rapport, alors ce que vous dites, moi, Elisabeth, par rapport au portrait, je reconnais absolument pas ce que j'ai vu dans ce que vous dites, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est absolument pas de psychologiser un portrait. C'est pas la psychologie qui l'intéresse, c'est la forme. Ça reste un peintre frustré jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vraiment un travail sur la silhouette, sur le corps dans l'espace. C'est un travail sur tout ça. Il cherche pas à dire quoi que ce soit sur les gens. Regardez les
photos. C'est pas exactement ce que vous avez dit, ça, Elisabeth Franck-Dumas?
Non.
La forme, le corps qui passe avant tout, quand même.
Si, mais vous disiez qu'il cherchait à vendre un pays. Je vous reconnais pas là. À vendre la grandeur des États-Unis de cette époque-là.
Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est c'est pas seulement ce que cette expo raconte du travail de Penn. Elle dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'elle dit aussi. D'une certaine politique éditoriale d'un magazine, comme vous venez de le dire, qui était un immense magazine extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'on voulait faire découvrir à ses lecteurs ? Qu'est-ce que toute cette bande de directeurs artistiques, parce qu'il y avait Lieberman, il y avait Brodovitch à Harper's Bazaar, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire découvrir à leurs lecteurs ? Comment ils avaient envie de les éduquer ? Parce qu'il y avait cette mission-là aussi. Et qu'est-ce qu'on allait leur vendre ? Et avec quoi est-ce qu'on allait les appâter ? Et comment est-ce qu'on allait leur expliquer que tel écrivain était intéressant, que tel... Et moi, cette démarche-là m'intéresse. Je trouve que c'est quand même dans ce cadre-là. C'est pas des portraits qu'il a fait pour lui, ou c'est pas des portraits qu'il a fait, en travail personnel. C'est quand même dans un cadre éditorial très circonscrit et où il s'agissait de vendre tous ces sujets qui, a priori, intéressaient peut-être pas l'Amérique moyenne dans les années 50. Toutes ces personnes, on parle de New York, mais c'était un magazine qui était vendu dans tout le pays. Et je trouve que la rencontre entre ce talent-là et cette volonté-là dit quelque chose de l'époque que je trouve intéressant.
C'est une vieille tradition chez Vogue de parler de la vie culturelle. Alors, beaucoup plus à l'époque qu'il ne le faisait aujourd'hui et avec... des intellectuels beaucoup plus puissants que ceux dont on parle aujourd'hui.
C'est les États-Unis d'après-guerre.
D'avant-guerre. Ouais. C'était vraiment, alors pour le coup, avant-guerre, avec Lee Miller, avec tout ça, c'était dès les années 20, c'était ce type de photos qu'il faisait. Mais lui, je trouve que vraiment, c'est un travail sur la forme avant tout.
Corinne Rondeau, qu'on a vue dans l'exposition du Grand Palais.
Je ne partage pas,
c'est une autre voix.
Je trouve que c'est la grande classe intégrale. Et je trouve que les Américains n'ont pas beaucoup d'imagination sur les scénographies. Et là, c'est parfait pour Penn, parce qu'il ne faut pas en rajouter. Voilà. Je veux dire, il est là. Il est là, et je trouve qu'effectivement, il y a une belle intro qui est... En première salle, on ne l'attend pas. Les recettes de cuisine, des premières photographies noires et blanc avec sa propre ombre. La première photo, c'est sa propre ombre qui est projetée sur des signes, des ombres de signes de devanture de boutique. Et donc il va photographier des mots, par exemple vacancy, et donc avec une petite icône à côté. Et donc il a le sens du raccourci, il a le sens de, il voit les choses à la fois dans la rue, il est déjà dans la rue avant qu'on le découvre avec ses mégots plus haut à l'étage. Et ça, c'est très bien, parce qu'en même temps, avec ses natures mortes et ses recettes, on est déjà dans la publicité sans vouloir nous faire le coup de on va vous montrer le Penn publicitaire. Parce parce que je pense qu'il y a une certaine classe de la part des, notamment du commissaire du Met, qui est une manière de dire, bah, à l'époque, on avait quand même d'un côté Alexei Brodovitch, qui était Harper's Bazaar, donc le mec était non pas seulement un hussard du tsar, mais il a été quand même le plus grand prof de design graphique. C'est quand même le type qui a inventé les bords, les plages de pages blanches. Mmh. Vous regardez sur internet, vous pouvez avoir accès à des pages de Harper's Bazaar et vous voyez des lignes qui reprennent la ligne de la photo à côté. Donc c'est, on trouve ça peut-être ringard aujourd'hui, je trouve ça d'une très grande efficacité encore aujourd'hui. Et quand on voit les typographies aujourd'hui, il y en a partout, on ne sait plus où est-ce qu'il faut lire, on se dit ben voilà, c'est la classe intégrale, on tourne, on comprend et il y a un rapport, une articulation simple et efficace du regard, de la lecture. Et ça, c'est très très bien. Donc, je pense que évidemment, quand il passe chez Liberman à Vogue, je veux dire, là, il est déjà formé par le plus grand, qui est aussi un Russe. Donc, on a les avant-gardes avec eux qui sont déjà aux États-Unis. Et donc, il a formé son œil sur l'idée du graphisme et du design. Donc, quand effectivement, la deuxième salle, on voit des robes, vous parliez de plis tout à l'heure, effectivement, il y a des robes Balenciaga avec sa femme qui pose. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est plus une robe, c'est plus une femme, c'est une robe et une photo, c'est une photo avec une femme, enfin, vous ne savez plus. Ouais. Et donc, vous en prenez plein les mirettes, parce que même si on connaît peine, c'est quand même un morceau, c'est un peu comme du Picasso. Il y a encore, et là, vous dites, waouh, mais ça cogne encore. Et alors, voilà des qualités du détail dont le détail devient la substance de la photo, et toute la photo vous tombe à l'œil, quoi. C'est formidable. Et à côté de ça, on a les portraits, effectivement, où il y a une photo de Cocteau. Mmh. Oui. Il n'y a pas que Cocteau, parce qu'on va avoir Peter toute une Ustinov. Série où avant de partir à Cusco, au Pérou, où effectivement il va se casser à 3500 mètres d'altitude, il faut le faire, mec, il est à New York, il fait les photos avec les stars et machin, il va se retrouver avec des Péruviens tradition, pieds nus, les godasses à moitié arrachées, bon voilà, et en fait il sculpte, sa photo c'est de la sculpture, et quand vous voyez en fait les personnages, il n'y a pas de personnalité, mais il y a du style. Mm. Chaque fois qu'il fait une photo de quelqu'un, que ce soit Stravinsky, Cocteau,
Dorabar, etc.
Ils ont leur style. Painter Stressy, ouais. Parce qu'il a une manière de photographier. Au départ, il a un fond gris. Enfin, il a un fond gris qui triture comme ça. Il va le récupérer. Il va avoir ce fond gris pendant 50 ans qu'il aura récupéré à Paris. Hein. Mais avant, il est déjà sur des fonds gris un peu marbrés. Et il va avoir des coins, c'est-à-dire deux angles et puis un fond plat. Mais on va voir légèrement. Et puis après, il va avoir le recoin, c'est-à-dire un triangle. Il va caler carrément ses personnages. Alors c'est formidable parce qu'en fait il pense à la page. Voilà, pour faire un portrait, il les met dans la verticalité de la page. Et d'un coup, cet angle qu'il y a derrière le personnage, vous dites, mais c'est complètement claustro. Et pas du tout. Il arrive à saisir dans le moindre espace le style de la personne. Et quand effectivement, là-dessus, après, bon, Cocteau n'est pas dans un angle. Là, il y a Duchamp, par exemple. Ouais. Duchamp qui est dans un coin, genre, je me fous de l'angle et je m'y colle. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il est impeccable. Stravinsky qui tend l'oreille comme ça. Genre, bon, ce type-là, je le connais pas, mais... enfin, on peut se dire qu'il est musicien sans savoir qui est Stravinsky, vous voyez. Il y a déjà la personne à qui il s'adresse, comment il va être, et la photo est la personne dans son style elle-même. Donc il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de sociologie, et en même temps, il ne le fait qu'avec du style qui est le sien, c'est-à-dire une géométrisation, une épure, une élégance, mais qui va jusqu'au paysan du péruvien, enfin, qui est absolument admirable, parce que même quand on parle de portrait ethnographique, moi j'en ai marre, parce que ça me saoule en fait de dire portrait ethnographique. Moi, ce que je trouve génial, c'est que le type est toujours à droite et à gauche, il est enfermé en continu, comme vous l'avez dit, Elisabeth, dans son studio, il va dérouler ce fond gris, et sur ce fond gris, il va faire à peine bouger la lumière, à peine, et chaque fois il fait une autre photo qui n'est jamais la même. Et il dit à un moment donné, la séance de photographie, c'est comme un diamant sur un terrain de baseball. Alors c'est génial parce que ça veut dire qu'en fait, il y a celui qui lance la balle, il y a celui qui l'attrape. L'attrape, c'est le photographe, et celui qui lance, c'est le modèle. Et alors c'est un peu bizarre ce diamant sur un terrain de baseball. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire, mais je me suis fait une interprétation. Mais je sens qu'Elisabeth va me le dire.
C'est le dessin du terrain de baseball qui s'appelle un diamant.
Ah voilà.
peu en forme de diamant.
Ah, voilà. Ok.
Alors, parce c'était que quoi votre interprétation, Corinne Rondeau, pour finir là-dessus?
À cause de l'idée que, comme il travaille beaucoup la lumière sur ses modèles, il y avait peut-être aussi quelque chose, le diamant est aussi une manière de faire bouger la lumière sur une forme, quoi, voilà. Donc j'ai pensé à la lumière sur l'objet. Et je trouvais ça bien, parce qu'il y a le mouvement de la batte de baseball. D'ailleurs, la première photographie du catalogue, les tirages du catalogue sont superbes, il y a une photo de Irving Penn, on dirait un joueur de tennis. Et je me suis dit, mais ce mec, en fait, est un aristo comme Björk, c'est-à-dire l'aristocrate qui va vers le peuple, comme disait Deleuze à propos du lift et du coup de Björn Borg. Et en fait, Irving Penn, c'est l'aristo qui est allé vers le peuple, parce que la question de travailler toute sa vie vers la publicité, c'est peut-être pas élégant, mais quand on voit la vulgarité de la publicité aujourd'hui, ce qu'elle est, on a envie de dire, ben, j'aimerais bien qu'il y ait un photographe comme Irving Penn qui vienne saigner à blanc le travail de certains publicitaires pour nous dire l'élégance. On en a encore un petit peu.
Existe encore.
Et dans les magazines, bien sûr.
Et les photos de mode aussi. La vulgarité aussi des photos de mode aussi. Oui,
bah, mais en parlant de Penn, alors, plutôt. Oui, oui. Pour rester dans l'élégance.
Non, mais écoutez, vous parliez des portraits. Moi, il y en a un qui m'a fasciné. C'est le portrait de Peter Ustinov, parce qu'il place son corps. On ne sait même pas comment il a...
Ça a l'air d'être possible physiologiquement.
On dirait qu'il a fasciné la matière comme ça. Et alors,
qu'il a retourné la tête pour qu'elle soit face à l'objectif.
Comme Marilyn Dietrich.
Oui. Absolument. Et vous parliez à l'instant, Corinne, de sculpture. Regardez tous les nus qu'il fait. Moi, je les connaissais pas très bien, les nus. Que ça soit aussi bien des corps très très maigres que des corps voluptueux. On a l'impression que c'est un hommage à Mayol. On a l'impression que c'est un hommage à Henry Moore. Enfin, il y a vraiment, là, on voit la sculpture et les cigarettes elles-mêmes, les mégots de cigarettes ressemblent à des sculptures aussi.
Ou à des membres.
Ou à des membres. Ouais. Corinne, un petit mot avant Elisabeth.
Les nus dont vous parlez, ils sont par deux.
Oui.
Et en fait, il suffit d'un petit mouvement pour que ce corps que vous avez vu ne soit plus le même.
Absolument. Et là aussi, il y a tout un travail sur les tirages éblouissant. Ouais, vraiment éblouissant.
Elisabeth Franck-Dumas, on a évoqué, très rapidement comme ça, mais de façon subreptice, le travail en Nouvelle-Guinée, qui est quand même assez particulier, m'a-t-il semblé, enfin moi je l'ai vécu comme ça dans l'exposition, et où je me suis demandé si là il était effectivement à la bonne place. Alors il y a des images qui sont extraordinaires, et en même temps je me demande si le procédé, là j'ai l'impression qu'il est manqué un peu de validité. J'ai senti quelque chose d'épuisé, et que là, il aurait peut-être fallu sortir de... Vous voyez ce que je veux dire, Yasmine Youssi? Peut-être que vous allez traduire ma pensée.
Non, je ne la traduirai pas mieux que vous.
Bon. Il y a quelque chose qui ne... Le système ne fonctionne pas à plein. Il fait quelque chose d'autre de ces personnes. Ouais. Alors que le vendeur de concombres, c'est bien le vendeur de concombres. Et là, tout d'un coup, avec ces...
Les photos du Maroc sont parfaites. Parce que c'est un travail sur la forme aussi. Avant tout, parce qu'on ne voit pas les visages.
Et le vêtement. En voyant les photos du Maroc, je me suis dit, c'est incroyable. Enfin, il y a un rappel aux photos de Cusco, parce que là encore, c'est les plis, on sent
absolument
que c'est ça qui
l'amuse. Mais la Nouvelle-Guinée,
le tissu.
Alors, mais il y a une objectivation des corps de la Nouvelle-Guinée, parce qu'ils sont plutôt nus, il y a quelque chose de beaucoup plus.
Il y a quelque chose sur le maquillage,
le masque, la peinture, la rituelle.
C'était pas très réussi. Non. Aussi parce que je trouve que ce qui est très beau dans ces photos, que ce soit les photos de mode ou la série à Cusco, certaines photos de la série à Cusco ou celles du Maroc, c'est justement la manière qu'il a de transformer. Alors c'est reconnaissable, on voit bien qu'il s'agit d'un corps, on voit bien qu'il s'agit de vêtements, mais en même temps de transformer, comme en fleurs ou en corbeau. Il y a une photo de deux femmes, une photo de mode qui les fait vraiment ressembler à deux oiseaux. Ouais. C'est à chaque fois qu'il y a une transformation comme ça qui s'opère, où on reconnaît et en même temps il tire vers quelque chose d'extrêmement élégant, de graphique. Et alors ça par exemple, c'est pas du tout à l'œuvre dans les photos de Nouvelle-Guinée.
Il y a des nus qui sont des toiles,
c'est très frontal,
des fois un peu trop d'ailleurs paysage pour le paysage.
Il y en a un qui est
c'est un paysage, hein,
celui où on voit le légèrement pubis comme ça,
c'est un nu allongé plat, de profil,
on avait l'impression d'une dune de sable. Celui-là est... Moi, sinon, la série de nus, j'ai pas forcément complètement accroché, mais celui-là,
comme à l'époque,
mais celui-là est très beau.
Très beau celui-là.
Ouais.
Bon, on s'arrête là parce que le temps file et qu'il y a quand même un programme.
Il y a d'autres photos, donc il faut.
Il y en a d'autres, non. Mais ce qui tombe bien, c'est que c'est jusqu'au 29 janvier cette exposition Irving Penn, dont on n'a pas épuisé évidemment toutes les beautés. C'est au Grand Palais, très beau catalogue. effectivement, qualité d'impression, c'est mieux pour Irving Penn, qui tenait tant. C'est publié donc par la RMN. À la suivre, dans la dispute, Elina Boitarus et Giorgio Morandi. Si vous avez des avis à partager concernant ces expositions, n'hésitez pas à le faire en réagissant sur le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, en nous rendant au Centre Pompidou pour y découvrir l'exposition Carte Blanche PMU 2017, confiée à la photographe finlandaise Elina Boitarus, la commissaire en est Karolina Zibienska-Lewandowska, une carte blanche qui offre une dotation à l'artiste, 20 000 euros, et qui prend en charge la production des œuvres et la publication d'un ouvrage aux éditions Filigrane. Donc, félicitons le PMU. Il y a longtemps qu'on l'aime, Elina Boitarus, n'est-ce pas, Corinne Rondeau?
Oui.
On l'aime pourquoi, Elina Boitarus?
Pour des raisons absolument inconnues. C'est comme ça qu'on aime les gens. Donc vous me lancez sur le...
Ouais.
Oui, d'accord, ok.
D'abord sur elle, peut-être, avant cette exposition-ci. Parce qu'il me semble qu'il y a un léger décalage entre son travail et...
La loufoquerie.
La loufoquerie.
De certaines pièces de...
Ça dépend ce que vous entendez par loufoque. Il faut avoir une définition de ce mot.
C'est une drôlerie inattendue, non ?
Une drôlerie inattendue, voilà, pour Elina Boitarus. Mmh. Alors, elle a une drôlerie inattendue dans certains de ses travaux précédents, mais il y a quand même toujours une part autobiographique souvent douloureuse, on va dire. Et c'était le cas dans la magnifique exposition qu'il y avait eu au Pavillon Populaire de Montpellier il y a deux étés maintenant, qui était une rétrospective extraordinaire, gratuite, ouverte au public. Enfin, c'était vraiment un moment extraordinaire que de voir cette exposition avec vidéo, tirage magnifique. Là, c'est une carte blanche, donc c'est une proposition. Il faut travailler. Alors, le jeu.
Oui, mais le travail qu'on y voit, c'est vrai que de premier temps, moi je dirais que c'est un peu décevant par rapport à ce que j'aime dans le travail de Elina Boitarus. Mais il est parfaitement cohérent avec tout son travail antérieur. Moi, je suis assez passionnée par notamment son film, sa vidéo The Black Bay, que je trouve absolument sidérant. C'est un long film où elle rentre dans l'eau et elle en ressort à certaines périodes de la journée.
Un lac.
Ou dans un lac, oui. Et donc, je trouve ça absolument... Je voulais écrire chacune de ces séquences, tellement je trouvais ça beau et que ça conduisait à être dans autre chose que simplement regarder une femme sortir de l'eau et en même temps de la voir de face et de dos, qui revient à une autre série qui est une série sur le différence du point de vue dans un paysage, où en fait elle se photographie de face et de dos, et donc on voit ce qu'elle a derrière et devant elle. Mmh. Donc on a les deux. Et ce rapport ensuite du corps qui est en train d'être le modèle de son propre travail, tant qu'il ne tend pas à l'autobiographie, ça ne me gêne pas, parce que j'ai un problème avec l'autobiographie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une sorte de trop grande démonstration, c'est pour ça que par exemple sa série Annonciation en 2009 m'avait beaucoup perturbée et m'avait mis vraiment
en retrait.
Cette
difficulté à devenir mère.
Oui, mais justement, je pense que... Non mais d'accord. Bon, les gens,
c'est pour expliquer.
Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais là, il y a des moments où quand l'autobiographie est trop là, elle est trop présente, elle a plutôt une manière de me faire fuir. Là, pour le coup, le travail qu'elle a fait est lié, je pense, aussi à d'autres travaux qu'elle a fait, notamment où elle s'est fait peindre en tant que modèle elle-même sur des tableaux. Donc c'est dans une vidéo, je crois, où il y a une série de photos aussi. Et puis il y a Son travail avec les études d'après études d'après danseurs, c'est avec des danseurs de l'Opéra de Paris où elle va les photographier dans des poses qui représentent déjà des poses de danseurs antérieurs, Nijinsky par exemple. Et là, effectivement, on a une exposition où on va reprendre un certain nombre d'actions qui sont proposées par des artistes des années 60, notamment Fluxus. Alors Georges, évidemment, j'ai toujours des trou de mémoire sur les noms propres. Eh bien, un artiste de cette période-là, donc il y a Yoko Ono, John Cage, Georges Brecht.
Très présent.
Et
oui.
Très présent. Et donc c'est after Marcel Duchamp, par exemple, qui aura une vidéo où elle va monter en fait nue dans les escalators de Pompidou, qui sera son after
nu montant
Marcel
un escalator.
Duchamp, nu descendant l'escalier. Et donc c'est cette manière de jouer avec la référence. Qui renvoie à ce côté corporel, dense, qu'elle a déjà vu, puisque elle a déjà travaillé. Et en même temps, là, elle est en duo avec une chorégraphe et une danseuse finlandaise aussi, je crois, Vera Vanlina. Et donc, elles sont toujours en duo. Et chaque fois, la proposition, eh bien, elle l'anime elle-même. Par exemple, s'il s'agit de Georges Brecht, donc trois danses, secouer la main, saler, et pas de deux, eh bien vous allez avoir trois photos où elles vont faire chacune, voilà, elles sont au bord de l'eau, je crois, elles
ouais,
sont
une
des,
plage pour une
des
fois,
imperméables, et donc elles vont avoir la salière sur la tête chacune, et puis le pas de deux, il y en a une qui cache l'autre, et elles font le même pas, on la voit vaguement parce qu'il y a les pieds, une main qui dépasse, et puis pour le premier, secouer les mains, ben vous les voyez les bras ouverts, hein, et vous imaginez qu'elles remuent leurs mains. Voilà, donc en fait, il y a quelque chose qui peut être burlesque, alors moi ça a marché sur une chose, une vidéo, c'est After Circus Horses, je parle mal l'anglais, mais Elisabeth
et Yasmine.
Tout le monde et Yasmine reprendra. Là, ça m'a fait rire parce que j'avais quelque chose d'une règle du jeu, puisque ça s'appelle comme ça, et que ces règles du jeu, je veux bien qu'on joue avec le jeu. J-E, J-E-U, et à deux, hein, avec les règles du jeu. Et que les règles du jeu, ça renverrait aux règles du jeu de l'enfant aussi. Et mais je pense que quand même, l'art... Il y a des moments où le sérieux, c'est pénible, mais quand on est trop dans le jeu, ça devient aussi pesant. Voilà. Alors moi, je suis à l'intermédiaire, c'est-à-dire je trouve très cohérent son travail. Je trouve qu'elle est très très bien, elle est toujours impeccable sur le format, la couleur, elle est jamais dans les contrastes, elle sait très bien son chromatisme. Moi, je la trouve impeccable là-dessus. Et voilà, j'aurais juste peut-être un autre truc à dire, mais pas plus.
Certainement, je reviendrai vers vous. Yasmine aussi, sur Elena Broterus.
Écoutez, moi, contrairement à vous, je ne connaissais pas le travail. Enfin, je la connaissais de nom, j'ai dû voir passer des photos, mais je ne m'étais jamais plongée dans son travail. Et je suis arrivée là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chose, quoi? Vraiment, en plus, c'est un étrange objet qu'elle nous présente. Et puis, je me suis dit, j'ai vraiment mis un peu de temps quand même à rentrer dedans. En me demandant ce que c'était que ces photos, j'étais pas aidée par les premières images, je comprenais pas très bien. Il y a pas de cartel, donc il faut prendre un papier rose
papier
que vous
rose,
avez là sous
papier,
la main.
Oui.
Sauf que dans le papier rose, les photos elles sont pas dans l'ordre.
Ah oui, donc on passe le temps à chercher. Mais alors, quelle est cette image ?
C'était une nouvelle règle du jeu. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me piquer au jeu, à sourire. Et à être plutôt bluffée par ce qu'elle avait fait avec cette série-là. Bluffée parce que elle a vraiment respecté l'idée de règles du jeu. Hein, c'est ça le thème qui est donné. Et que sous ses abords ludiques, c'est un travail qui est extrêmement précis, extrêmement rigoureux, extrêmement cohérent. J'ai trouvé chaque image, comme vous le disiez très justement, Corinne répond à une règle du jeu qui est empruntée. Alors c'est essentiellement des artistes de Fluxus des années 60. Il y a quelques artistes de quelques dadaïstes, je crois qu'il y a Tristan Tzara, mais aussi il y a une photo qui emprunte à Francesca Woodman. En mettant le portrait, enfin un corps nu avec la photo de portrait d'elle. Elle interprète tout ça, donc elles sont deux. Elle l'interprète avec beaucoup de sérieux. Il y a aucune qui ne sourit jamais. Et de là, il y a une drôlerie qui naît et je trouve que c'est assez rafraîchissant. Et puis, surtout, le projet est vraiment tenu de bout en bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein.
Elle est sérieuse, Elena
voilà,
Broterus.
Oui, elle est sérieuse. Mais de ce sérieux, c'est de là que pour moi naît la loufoquerie si brillamment expliquée par Corinne. Je trouve que ça, vraiment, c'est très tenu, c'est assez rare. En photographie, on voit très peu de femmes en fait faire ça dans l'histoire de la photo. Et ça m'a bluffée. Et puis vraiment cette idée de règle du jeu aussi, la tenir comme ça. Il y a toujours une tension entre le ludique et la règle et la contrainte, systématiquement. En même temps, quand on regarde ces photos, il y a plein de références qui viennent. Enfin, il y a plein d'autres artistes qui viennent à l'esprit. On se dit, mais c'est vraiment, on se croirait que les deux là, elles sont sorties d'un film d'Aki Kaurismäki, quoi. Ouais. Les décors, c'est le catalogue Ikea, quoi. Enfin, ces couleurs un peu flashy pour faire oublier que dans ces pays-là, il fait nuit tout l'hiver. Et voilà. C'est vrai que dans les positions qui relèvent de la loufoquerie, de l'absurde, on pense à Erwin Wurm aussi. Mais au final, c'est vraiment son propre univers. C'est un univers bien à elle.
Elisabeth Franck-Dumas, familière ou pas d'Elina Broterus?
Oui, et je trouve qu'on retrouve tout à fait son univers, même si la contrainte, là, a eu le rôle... c'est très libérateur, en fait, la contrainte. Enfin, ça c'est un peu... J'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai.
Mais c'est bien de le redire, toujours.
Et je trouve qu'elle le manifeste. Je trouve que le résultat est plus réussi en photo qu'en vidéo. Les vidéos, c'est inégal, on s'ennuie parfois un peu, on est parfois vraiment charmé. J'ai notamment, moi, personnellement, beaucoup aimé la vidéo Crazy Days où Elina Broderus et sa comparse, un sac en plastique qui les empêche de voir sur la tête, descend d'un couloir, marche au long d'un couloir et puis finalement s'allonge. Évidemment, alors oui, il y a un petit côté jeu de loi avec le programme qu'on peut prendre à l'entrée et les photos qui ne correspondent pas au parcours, mais c'est vrai que ça ajoute évidemment beaucoup, notamment à l'humour, de voir d'où elles sont parties, où elles sont arrivées. Là aussi, il y a du jeu. Hein, au sens d'interstice. Je pense qu'elles se sont beaucoup amusées. Enfin, elle a dû pas mal s'amuser avec la... Je crois qu'elle le dit dans un des textes, avec la polyphonie de jeux. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de jeux. Et moi, je dois dire que je trouve les photos, comme d'habitude, ça c'est pas nouveau, mais extrêmement... conçues de manière extrêmement précise, très belle. On retrouve cette neutralité un peu dans la lumière, la frugalité du décor. Vous parliez des meubles Ikea. Il y a assez peu d'objets. Et quand ils sont là, ils existent très puissamment et de manière assez amusante. D'ailleurs, c'est drôle parce que les objets irradient comme ça d'une force propre, que ce soit le métronome et la cafetière dans la petite vidéo où il s'agit de faire du café au son d'un métronome, ou même les citrons posés dans la neige. Il y a des choses comme ça vraiment très belles. On les voit, ça claque. Et en revanche, les personnages, les protagonistes de toutes ces petites actions, comme vous le disiez, dénués de psychologie, assez inexpressifs, très sérieuses, très appliquées. Donc, fatalement, ça donne un côté burlesque à la chose. À un moment, Elina Broderus emporte sa comparse sous le bras, elle se transforme en mannequin. Et sans doute que le contrôle qui vient de la mise en scène photographique a permis quelque chose de plus réussi. Et puis on n'est pas obligé de rester, il y a un rythme, parfois il y a un tempo dans certaines des vidéos qui fait que bon, alors que la photo, on peut décider de rester autant de temps qu'on veut devant l'une, passer à l'autre. Mais je trouve plutôt que je ne sais pas si ça va impulser une nouvelle direction dans son travail radicalement, mais j'ai trouvé que c'était une respiration pleine de fantaisie, assez amusante et bienvenue.
Ouais, alors la fantaisie, elle n'est pas absente du reste de son travail. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est... C'est assez étrange toujours avec ces images, quand il y a des individus dedans, c'est qu'ils ont l'air toujours extrêmement fermés, donc dans cette neutralité, c'est souvent, la plus souvent, c'est elle-même qui est son propre modèle. Et en même temps, ça me semble très ouvert sur tout ce que ça peut aussi raconter comme histoire, parce que l'impassibilité, qui est celle d'un Buster Keaton, évidemment, c'est aussi une surface de projection sur mille et un scénarii possibles, quand effectivement elle emporte sa « to carry a person », hein, c'est un, je crois qu'il y a un jeu pour transporter une personne, visiblement, jeu concours. Vous verrez ça si vous allez au centre Pompidou. Il y a quand même toujours des narrations possibles chez Elina Broderus. C'est ça que j'aime. Ce sont des images qui sont en fait très ouvertes. Mais juste pour, par parenthèse, dire que cette exposition, elle est donc dans les fameux 200 mètres carrés de la galerie de photographie du centre Pompidou. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est un accès libre, gratuit, pour cet espace-là. Pour autant, Yasmine Youssi, vous qui connaissez quand même quelque chose dans la photo, il serait temps qu'une grande institution se penche un peu sérieusement sur le travail d'Elina Brotterus et lui consacre l'espace et la grande exposition qu'elle mérite ô combien. On est très heureux de faire de très belles redécouvertes au Jeu de Paume, par exemple, parce qu'effectivement, ça paraît le lieu pour elle. Mais on peut s'intéresser aussi aux gens qui sont bel et bien là, qui vivent et travaillent pour partie en France, et qui produisent aujourd'hui. Non, il y a des vivants au Jeu de Paume, hein. Je ne vais pas faire de caricature, mais ça peut être un lieu qui pourrait donner de la place à Elina Brotterus. Non,
oui, non, mais bien sûr. Moi, j'avais raté à Montpellier, mais évidemment, enfin, moi, pour moi, vous parliez de respiration, mais je le reprendrai le terme dans une autre manière, parce que je pense que c'est vraiment un temps de pause qui relève en fait de ce qui a déjà été fait et autrement. Et là, il y a une inscription dans l'histoire de l'art beaucoup plus que ce qu'elle faisait. Et donc là, il y a vraiment l'idée du jeu et comme peut-être une respiration dans son travail. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est justement qu'elle était un motif perdu dans un paysage et que la dimension du nu du paysage à la Friedrich dans sa série de New Painting par exemple qui est très présent. Moi, les paysages, j'ai l'impression qu'ils sont renversés quand je la vois, alors que je sais que c'est le haut et le bas et bien au bon endroit. Donc je trouve qu'il y a un vrai sens de la photo, il y a un vrai sens de l'arrêt photographique chez elle. Elle s'est posée ce qui m'a toujours fascinée, c'est la visibilité. C'est la dimension extrêmement visible de ces photographies. Et elles sont tellement visibles qu'elles sont muettes. Mais moi, c'est ça qui me passionne dans son travail. Mais dès que ça parle, dès que ça devient bavard, et j'ai l'impression qu'il y a, cette extrême visibilité conduit à de la lisibilité au fur et à mesure. Et là, l'injection de la danse, l'Opéra de Paris, le Fluxus, Déborah Hay, qui était dans la période de Fluxus, et sa comparse Vera Navalnina, qui elle-même travaillait avec Déborah Hay. Vous voyez que tout le monde se trouve que c'est tout ça est très logique. Je veux dire, bon, la logique qu'on fabrique aussi des hasards, hein. Il faut pas non plus pousser mémier dans les orties, quoi. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que si c'est une respiration, et il en faut dans des œuvres, parce qu'il y a des moments comme ça où on a besoin de se poser, et voilà, avoir une carte blanche, ça fait du bien aussi pour repartir. Et moi, je trouve qu'il faut faire attention à pas devenir le sujet de son propre motif.
On s'arrête là-dessus, parce qu'il nous reste Giorgio Morandi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Elisabeth Franck Dumas? Je ne veux pas absolument vous frustrer.
Non, absolument pas.
Bon, je clôt cette séquence consacrée à cette carte blanche PMU d'Elina Brotterus au centre Pompidou jusqu'au 22 octobre seulement, donc il ne faut pas tarder. Bon, ça a ouvert aujourd'hui en même temps, d'où le nombre de réactions sur Twitter, parce qu'effectivement, ça n'a ouvert que tout à l'heure.
Ça ne dure qu'un mois,
c'est ça, je dis, il faut se dépêcher, même pas un mois, puisque c'est jusqu'au 22 octobre, et que nous sommes le 27 septembre. Sauf si je vous apprends quelque chose. Catalogue édité par Filigrane.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième temps de cette dispute consacrée aux arts plastiques avec une exposition de galerie qui pourrait bien être une exposition de musée. Donc à la différence notable que l'entrée y est gratuite. La foule s'y presse quand même moins que dans les grands musées. Alors, je veux parler de l'exposition que la galerie Kerstengreve consacre au peintre italien Giorgio Morandi, mort en 1964, alors qu'il s'est toujours situé en dehors des mouvements et des écoles. On en reparlera sans doute, mais Yasmine aussi, j'ai encore dit une bêtise, vous vouliez me sauver quelque chose?
Non, moi j'y suis allée un samedi, c'était blindé, je n'ai jamais vu ça
blindé,
en galerie.
Blindé, dire rempli de personnes.
Oui, voilà, pardon, excusez-moi, je parle.
Bien. J'accélère le rythme, comme il reste une dizaine de minutes, à peine 11, pour cette exposition de la galerie Kerstengreve, d'autant plus remarquable qu'elle présente une cinquantaine d'œuvres de Morandi, alors que le peintre n'a pas été particulièrement prolifique, des œuvres qui couvrent la période 1927 à 1963, la maturité de l'artiste, 64, Corinne Rondeau. Nature morte majoritaire, à l'image de sa production. On peut rappeler aussi que Morandi disait « Rien n'est plus abstrait que la réalité ». C'est peut-être la première porte par laquelle on peut entrer, Yasmine aussi.
Oui, entrer dans cette exposition, vous le disiez, absolument exceptionnelle. Elle est de qualité muséale.
Où rien n'est à vendre dans une galerie.
Rien n'est à vendre. Absolument, j'allais.
Et rien ne doit être photographié.
Oui, oui. Et Giorgio Morandi est très rare. Je crois que la dernière exposition, ça devait être Suzanne Paget qui l'avait faite au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 2001. Il y en a eu une à la Tate, je ne sais pas si c'était la même, mais dans ces eaux-là. Et depuis, on n'a pas vraiment vu d'exposition de lui. C'est une œuvre pour moi qui est essentielle parce que elle pose les questions. Les questions les plus importantes par rapport à la peinture, sur ce qu'est la peinture. Et enfin, elle est essentielle parce que c'est une œuvre qui est totalement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, où l'on va voir le travail d'artistes, on regarde vite, on consomme vite, on oublie vite. Morandi, c'est absolument tout sauf ça. Comme le dit Olivier Sénat, moi c'est Olivier Sénat qui chez nous y était allé et en est revenu absolument ébloui. Et il l'écrit, il dit. Morandi ne cherche pas comment sont les choses, mais comment il les voit. Ces choses, alors, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, ce sont des bouteilles, des boîtes sur une table, quelques bols, toujours présentées de face. Un fond bicolore, des couleurs souvent très étouffées. Et tout ça va donner lieu à des expérimentations, à des expériences esthétiques multiples. Comment il les dispose, comment ils vont faire pour occuper l'espace. Il en met certaines qui sont de même taille, d'autres qui sont de taille différente. Des objets qui sont ronds, d'autres qui sont carrés, ouverts, fermés. C'est une exploration infinie qui demande aussi qu'on y passe du temps. Vraiment du temps, parce que l'œuvre de Morandi se révèle comme ça, petit à petit. Tout doucement. Tout est question de lumière aussi. C'est les mêmes objets, la même table, la même disposition de face, mais tout est dans la lumière. Et vraiment, encore une fois, à l'heure où on a l'impression que c'est l'obsolescence qui domine, où c'est vraiment on sait que c'est pas pour rester. Giorgio Morandi est une antidote. Absolument formidable pour nous apprendre à regarder un tableau et à prendre le temps et pour laisser les formes se révéler petit à petit. Pour moi, ça a été, j'avais déjà eu ce choc-là quand je l'avais vu à Londres il y a quelques années. Il y a
quelques années.
15 ans, je pense. et là, c'est toujours le cas dans cette petite exposition. Enfin, petite exposition, mais trois salles, mais exceptionnelles.
Elisabeth Franck-Dumas.
Disons suffisamment grande pour donner une idée de ce qui est merveilleux dans sa peinture, et en même temps pas trop, disons suffisamment petite pour pas être lassante, parce qu'il y a quand même une répétition, il y a beaucoup de jeux autour de la répétition, de la variation. C'est ça qui est intéressant. Alors comme vous le disiez, on apprend plein de choses. Je trouve que c'est un peu le risque d'ailleurs quand on parle de Morandi, c'est que on a l'impression de comprendre plein de choses à la peinture en voyant certaines de ses peintures, mises côte à côte notamment, d'avoir compris plein de choses, d'être tout à coup un petit peu plus éclairé, puis se mettre à raconter n'importe quoi, ou être un peu trop lyrique. Enfin, ça, c'est vrai que bon, là, on rentre. Moi, c'est vraiment la première salle qui est la salle de. Si on connaît Morandi, c'est là qu'il y a les œuvres les plus reconnaissables. Ces natures mortes que vous avez très bien décrites, tous ces objets réduits à leur plus simple appareil, qui sont encore plus simples que ce qui sont dans le réel, ces cruches, ces pots. Et puis alors, on s'approche. Donc, on les voit. On rentre dans la salle. On voit cette lumière très particulière, ce blanc laiteux qui pourrait être celui de certains tableaux de Turner. Enfin, il y a quelque chose de vraiment qui irradie de ces étoile qui est assez magique, donc on s'approche et si on prend le temps en effet de les regarder, eh bien on se rend compte que tout se fond, qu'il y a une matière de peinture qui est là, que les objets se fondent dans le fond, que les plans sont parfois écrasés. Je vais être un peu plus claire, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un goulot de bouteille qui est exactement dans la même tonalité que le fond, mais au milieu il y a une cruche, donc ça crée tout à coup des nouveaux espaces, il y a quelque chose dans ces effets d'aplatissement qui n'en sont pas. On se rend compte de ce qu'on peut faire avec ce matériau de peinture qui est magnifique. L'emplacement aussi, où il va mettre le plateau de la table sur laquelle sont posés tous ces objets, qui devient comme une espèce de ligne d'horizon, la manière qu'a la lumière de tomber, est-ce que c'est frontal, est-ce que c'est vertical, enfin voilà, on va de petite épiphanie en petite épiphanie. Je vais essayer de pas être trop lyrique, mais il y a cette impression de poésie. Moi, ça m'a fait aussi penser au travail du poète qui se dit, tiens, comment est-ce que j'arrange mes mots, où est-ce que je place mes virgules, où est-ce que je fais, on bouge des blocs, des volumes, puisque finalement ces objets ne sont plus que des formes, des volumes, des couleurs. Et c'est ça qui est, j'étais peut-être moins sensible à la deuxième partie, les paysages, ou peut-être moins aux eaux fortes, mais enfin oui, c'est une expo de qualité muséale qu'il faut absolument aller voir, qu'on aime, qu'on ne connaisse pas, Morandi.
Corinne Rondeau.
Oui, puis c'est le plaisir de pouvoir voir des œuvres très près, parce que là, on n'est pas au musée, on nous dit « Ah non, les alarmes qui sonnent et tout ». Donc là, vous pouvez avoir le nez sur des tableaux qui nécessitent, parce que c'est des petits formats.
Il faut mettre le nez dessus,
c'est pas des très très grands formats. Ça n'a jamais été de grands formats, de toute façon, chez Morandi. Il faut quand même négliger qu'il était professeur de gravure à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne. Donc la question du négatif, travailler en négatif, il sait ce que c'est. Alors, il y a des eaux fortes, il y a des dessins. Les dessins, on voit bien qu'il travaille en négatif. Il fait tenir le volume avec un trait en négatif, finalement. Donc, il travaille sur les blancs aussi. Et puis, évidemment, la peinture. C'est vrai, la première salle, Elisabeth, vous avez un mur, celui que vous prenez, là. Bon, il y en a deux. Non, mais là, vous avez un passage. Ben, vous arrêtez, puis vous restez trois heures avec un, puis trois heures avec l'autre. Voilà. Et c'est juste rien du tout. C'est juste rien du tout. Et ce qui est absolument admirable, et au fond, quand même, il faut aller jusqu'au fond. Parce qu'au fond, il y en a une. Il y en a une de toile. Je me permets de dire, parce que ce qui est très étonnant, alors, vous avez dit les bouteilles, les vases, les boîtes, etc. Et puis d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce trait noir là? Ça ne va pas, ce trait noir. Et en fait, moi je sais qu'il y a à côté, dans la première salle, il y avait deux bouteilles, un carré, un cube devant. Et derrière un autre petit carré, je me dis, mais c'est du Giotto. C'est la manière dont le lieu est construit avant la perspective. Et on voit la superposition, je dis, mais il travaille. Bon, après, j'ai lu, effectivement, j'ai vu que c'était, parce que je connais Morandi de l'œil, mais je connais pas son histoire. Et là, je me dis, mais oui, bien sûr, la référence à Giotto est dans le travail de Morandi, il la réclame. Et Piero della Francesca, Francesca aussi. Donc, ouais, Francesco, Et je trouve que là, d'un coup, on a l'idée du lieu, du locus. Vous savez qu'en plus, c'était le locus aristotélicien dont on se sert dans la peinture chez Giotto, un rapport à la mémoire. Mais ces tableaux, finalement, ils ne sont jamais que un tableau après un autre tableau, jour après jour, avec mes mêmes petites bouteilles, mes mêmes petits vases. Et je trouve absolument d'une émotion et rien n'est plus grand, je trouve, que quelqu'un. Alors, on va dire c'est un franciscain, dans sa cellule. Mais rien n'est plus beau que quelqu'un qui, avec juste un alphabet, on va dire, quelque chose comme ça, ça revient à ce que vous disiez, Elisabeth, va faire chaque fois autre chose. Et il y a un tableau au fond de la salle, avec une légère diagonale comme ça. Il y a une sorte de bouteille. Écoutez, quand vous êtes dessus, vous voyez la peinture s'évaporer. Ça s'évapore. C'est pas un flou. Ça s'évapore. Alors, vous avez d'un coup une construction absolument marquée, très noire. Genre, je fabrique quelque chose qui n'est pas une réalité, qui n'est pas une vraisemblance, qui n'est pas une reproduction, parce qu'il est complètement dans ce que vous avez dit comme l'annonce que vous avez faite, Arnaud. Il n'y a rien de plus abstrait que le monde réel. Ce trait noir et ces évaporations, c'est vous enlevez les bouteilles et les verres et vous avez un voile. Je veux dire, c'est... Et donc, ces tableaux, c'est... Vous parliez d'épiphanie. J'irai pas jusque-là parce que... Mais je crois qu'il y a une sorte de révélation de soi, et je reviens à ce que disait Yasmine, de soi au temps. Parce qu'en fait, faire un geste presque toujours le même tableau, on est là à des choses infinitésimales, mais qui vous tiennent debout toute la vie. Et quand vous êtes face à un Morandi, eh ben ça le fait sur vous aussi. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de temps, et Carsten Greve nous offre un paquet de temps, peut-être même l'éternité.
Ouais, jusqu'au 7 octobre seulement. Un petit mot encore, Yasmine aussi.
C'est aussi une peinture du silence. Et dans un monde où tout buzz tout le temps, où on a vraiment se poser là, pour prendre le temps, comme dit Corinne, écouter, regarder, réfléchir à ce qu'est la peinture, c'est magistral.
Elisabeth Franck Dumas.
C'est un très beau cadeau
aussi. Vous parliez de franciscain, mais il y a quelque chose de très zen aussi dans ce, dans cette persévérance, dans le fait de remettre comme ça chaque jour, à chaque fois les mêmes objets, changer, revenir. On est dans la contemplation. Non, c'est.
Mais pas, alors c'est pas zen, mais. Pas pour les purs, hein. C'est vraiment parce que c'est là en même temps. C'est
c'est très étrange.
C'est d'une présence très présente et complètement s'évaporant, comme vous le disiez, aussi. Évanescent, mais matériel. Non, mais c'est là, ça qui est très étrange, la tension entre les deux.
Moi, je l'ai même.
L'aquarelle, je
n'ai pas le droit, mais je l'ai prise en photo.
C'est en
1960, mais c'était seulement pour servir d'aide-mémoire afin de préparer cette émission. Ah non, pardon, j'ai pas pris l'œuvre, j'ai pris le
cartel.
Voilà,
la description.
Non, la description. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. 1960, c'est même pas une des dernières. Et on voit que c'est en train de se dissoudre, les formes sont en train de se dissoudre.
Je serais partie avec lui. C'est les listes.
Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose là, dans la dissolution de la peinture, qui est complètement fou.
Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir...
Gommer le superflu
et aller à la galerie Karstengreve, rue de Bellem à Paris. Jusqu'au 7 octobre, hein, dépêchez-vous pour voir cette exposition exceptionnelle de Giorgio Morandi. Il y a un catalogue qui a été également édité à cette occasion. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute avec Grégoire Di Fiore qui nous a rejoint pour d'abord un rappel de la question du jeu d'hier au soir. Grégoire, quelle était la question ?
Quelle pièce de Lars Norén mit en scène des prisonniers qui profitèrent de leur permission pour commettre des braquages ?
Et la réponse est ?
La pièce 7-3.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour le film Stupid Things d'Aman Abbasi qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question ?
Quel État américain servant de décor au film s'est fait remarquer en restreignant l'accès à l'avortement ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. N'hésitez pas à intervenir dans ces émissions, évidemment, avec les paroles magnifiques de nos critiques chaque soir. Peut-être vous n'osez pas, vous pouvez le faire quand même. Prenez votre temps sur Facebook dès maintenant pour l'émission de demain ou en direct sur le fil Twitter Dispute FC. Demain, littérature, en compagnie de Florent Georgescu, Laurent Nunez et Jean-Christophe Briand. Notre sommaire au cœur des ténèbres et autres récits à l'occasion de la publication en Pléiade de ces textes de Joseph Conrad, le triomphe de Thomas Zins de Mathieu Jung chez Anne Carrière et Rien que Rubens, texte de Philippe Forest dans la collection Cartel.